14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures, nous sommes sur Sud Radio. Alors les vacances sont propices aux rencontres amoureuses et ça c'est tant mieux. Sauf que toutes les enquêtes le prouvent, c'est également durant l'été que le nombre d'infidélités est le plus élevé. Alors il y a évidemment de nombreuses raisons à ça, on pourra peut-être les passer en revue avec Pascal Neveu qui est mon invité aujourd'hui. Alors cela étant dit, même les couples qui partent ensemble en vacances peuvent se retrouver confrontés à l'adultère. Bah oui, parce que on n'est pas toujours collés l'un à l'autre. Et puis on sait aussi que l'infidélité est l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter dans une relation. Donc c'est peut-être important de comprendre ce qui se joue dans l'infidélité. Et puis ce qui est important, c'est de bien comprendre les enjeux de part et d'autre. Pourquoi le ou la partenaire va avoir envie d'une aventure sexuelle? Pourquoi certaines personnes ne savent pas dépasser l'épreuve, tandis que d'autres y parviennent assez bien? Bref, c'est sûr, l'infidélité, ça remue profondément nos valeurs, notre estime de nous-mêmes et bien sûr la confiance. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à retrouver, la confiance. Et pourtant, c'est un pilier essentiel dans la relation amoureuse. Donc c'est tout ça qu'on va voir ensemble. Alors que vous soyez d'un côté ou de l'autre, si vous avez envie de mieux comprendre ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Pascal Neveu.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous.
Heureux de vous retrouver lors de cette entrée.
Moi aussi. Et puis, c'est un sujet, c'est un sujet malheureusement classique et fréquent. Hein.
L'infidélité en général, mais c'est vrai qu'il y a eu une étude qui est sortie cet été, je ne sais pas si vous l'avez lue.
Non,
mais
non.
Moi, je vous devance pour une fois. Il y a une étude qui a été demandée par Glidden, vous connaissez ce site d'infidélité,
bien sûr, principalement
pour les femmes, etc. Et ils ont interrogé 5 millions de leurs membres, sans jeu de mots. Alors je ne sais pas si, j'ai recherché un tout petit peu, je ne sais pas si ce seront des membres fidèles au site, ou infidèles qui vont sur d'autres sites également. Et on a constaté que durant cet été, pardonnez-moi, j'ai pas retenu les chiffres par cœur, on a eu 2/3 des personnes sondées, donc sur les 5 millions, qui se sont connectées de manière assez récurrente, dont 41% de manière régulière. 52%.
Alors, il faut quand même savoir que Glidden, c'est un site qui encourage à l'infidélité. Donc
avec une énorme publicité dans le métro parisien il y a quelques années, etc. Avec la fameuse pomme. Et sur les bus parisiens.
Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu plus dans ce sondage que dans la moyenne en général. Hein. Je précise pour les auditeurs, pour les rassurer.
Tout à fait. Alors la moitié des 5 millions qui ont été sondés, en fait, y allaient par curiosité. Et d'après ce que dit la responsable du site, 21% pour eux c'était un simple passe-temps, mais alors 40% ont recherché réellement une véritable maîtresse ou un amant.
Ben oui.
Et donc, d'autant plus que si la femme était à distance ou si on devait travailler sur Paris, revenir de temps en temps régulièrement ou même en province, etc. Mais il y a eu des parenthèses extra-conjugales durant tout cet été. Visiblement, les chiffres ont explosé cet été.
N'est-ce pas? Bon, alors, moi, je voudrais juste déjà dire une chose. Quand on va par curiosité sur un site comme Glidden, quelque part, c'est qu'il y a une part quand même inconsciente qui rêve
d'autres choses.
Vous êtes d'accord en tant que psychanalyste,
la Pascal Neveu, de la routine, etc. Ou simplement fantasmer en discutant avec une femme, un homme.
Ça ne veut pas dire qu'on a l'intention d'eux, mais quand même, c'est pas anodin.
Mais c'est un peu comme si on regardait un film pornographique, en quelque sorte, et puis des émissions coquines. Il y a pléthore de sites, mais on passe pas forcément à l'acte. Là-dessus, il faut rassurer les Françaises et les Français. Vous avez finalement, alors en statistique, c'est un homme sur deux qui va tromper au moins une fois dans sa vie son épouse, c'est 35-37% une femme, mais sinon la tromperie, l'infidélité régulière, ça concerne 10-12% de la population. Donc rassurons tout le monde.
Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que la meilleure manière de ne pas être tenté, c'est de ne pas y aller.
Bah oui.
Parce que quoi qu'on en dise...
Mais c'est tellement tentant, c'est comme... avec les bonbons, les chocolats,
si vous achetez une boîte de chocolat avec l'intention de la garder pour l'offrir à des amis, il est possible qu'un soir vous ouvriez la boîte et puis que vous puissiez...
C'est la boîte de Pandore en fait.
Voilà, et ben c'est un peu pareil si vous allez sur des sites de rencontres,
Tout est possible, qu'est-ce qui se passe?
Et d'ailleurs, pour certaines personnes... Peut-être qu'on en parlera dans cette émission. Pour certaines personnes, déjà aller chatter sur un site de rencontre, c'est être infidèle.
Oui, et même penser à quelqu'un d'autre pendant un rapport sexuel, se masturber en pensant à quelqu'un d'autre, et également, c'est une forme d'infidélité. Vous savez que, par exemple, il y a une dernière étude qui a démontré que les hommes se masturbaient un jour sur deux.
Seulement ?
En France, hein.
Moi, je croyais que c'était deux fois par jour.
Ça dépend de l'âge.
Oui, ça dépend de l'âge, vous avez raison. Je reste optimiste.
Moi, j'en ai connu, c'était 10 fois par jour. Ils étaient très jeunes.
Bon, alors, un jour sur deux, d'accord. Bon, un jour, ils pensent à leur femme.
Un jour à la voisine, un jour à une actrice ou à un acteur, etc. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes.
Oui, voilà. Non, mais, enfin, moi, j'ai toujours pensé que les pensées qu'on peut avoir pour d'autres, ça n'a pas d'importance.
Mais ça peut pimenter le couple également.
Oui.
C'est partie des jeux.
Moi, j'ai toujours considéré que c'est le passage à l'acte.
Le plus important, qu'est-ce que c'est ? C'est de prendre du plaisir pendant le rapport sexuel et de se rendre compte que même si on a pensé à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est notre partenaire parce qu'on s'endort dans ses bras, on se réveille avec, ou alors si ça a lieu, le rapport sexuel, avant de s'endormir, ou même dans la journée, quoi qu'il en soit, on passe son quotidien avec l'être aimé, on construit avec son couple.
Alors, on va peut-être, avant de donner la parole à Magali qui nous a déjà rejoint et qui veut témoigner, je l'en remercie, on va déjà évoquer deux, trois choses. D'abord, il est certain qu'il y a des personnes qui vont plus facilement passer à l'acte parce qu'elles ont une morale peut-être plus légère.
Enfin, je ne sais pas si c'est une question de morale.
Ou des besoins plus forts, enfin qu'importe. Mais enfin, bon, on n'est pas égaux dans notre capacité à être infidèle, hein, si je puis dire.
Tout dépend de notre libido.
De notre pulsion sexuelle, absolument, ouais. Mais aussi de la manière dont on envisage l'acte sexuel. Si l'acte sexuel n'est pas quelque chose d'essentiel pour nous, on va considérer que ce n'est pas très grave d'avoir une relation extra-conjugale.
Et tout dépend également des fantasmes. Il y a des fantasmes qu'on ne va pas vouloir vivre avec sa compagne, son compagnon, parce que ça pourrait sembler totalement dégradant.
Vous avez raison, il y a des hommes qui vont voir des prostituées parce qu'ils auront l'impression de ne pas être infidèles à leur femme, mais en même temps, ils ont besoin de fantaisies sexuelles qu'ils n'osent pas faire avec leur femme.
Et ils respectent leur femme ou leur mari également.
Mmh. Et quant à celui ou celle qui est entre guillemets trompée, j'aime pas ce mot-là, je le trouve trop fort, mais bref, on va l'utiliser malheureusement, il n'y en a pas d'autre. Ça va de toute façon toucher beaucoup l'estime de soi, la confiance, et c'est ça qui est toujours difficile à réparer, vous êtes d'accord avec ça ?
Les deux plus grandes raisons de rupture dans un couple, c'est le mensonge et l'infidélité. C'est à peu près coude à coude. Hein,
qui généralement vont assez souvent
de pair. Oui, c'est gênant, ça va de pair, etc. Quand les hommes ne se font pas choper, parce que les hommes adorent se faire prendre dans des cas d'infidélité. C'est assez drôle. Les femmes sont plus subtiles.
Eh ben, je pense qu'elles devinent plus le mensonge que les hommes.
Elles sont plus intuitives également.
Oui. Donc c'est pour ça que les hommes se font plus souvent prendre. Et puis,
ils sont nuls. Enfin, pour une fois que je critique mes congénères.
Non, mais peut-être que la femme est plus pernicieuse aussi,
je le dis parce que je suis une femme,
donc je peux me permettre de le dire. Je crois que elle va plus naturellement avoir envie d'aller fouiller. Alors bon, moi je pourrais dire, c'est normal, on fait les poches des hommes avant de mettre les trucs dans la machine à laver. Hein.
Comme si les hommes ne faisaient pas une machine à laver.
C'est quand même.
Regardez les cartes bleues, tout ça.
Regardez les sondages, c'est encore plus.
Oui,
les
ça
femmes.
Je sais.
C'est quand même encore plus les femmes. Voilà, bon, tout ça, on va voir au cas par cas, parce que encore une fois, comme pour tout, chaque cas est un cas particulier et attention aux généralités.
Et l'unique, il n'y a jamais de jugement. Et pas de généralité, on est d'accord.
Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'une infidélité peut révéler que le couple ne va plus très bien, mais une infidélité n'est pas forcément l'arrêt du couple. Et ça,
réveiller également.
Voilà, c'est vraiment important que tout le monde entende ça.
Je suis passé à côté de quelque chose, je ne l'ai pas vu. Alors, il ne s'agit pas forcément d'aller en thérapie de couple, mais parfois, un homme ou une femme n'entend pas, peut-être davantage les hommes, mais on ne voit pas les choses. On rentre dans cette routine. On n'a pas vu que son épouse, par exemple, je vais cracher sur les hommes pour une fois, n'a pas vu que son épouse était passée chez le coiffeur, qu'elle avait un nouveau... décolleté, nouveaux habits, des nouveaux sous-vêtements, etc. Il y a plein de choses comme ça qui paraissent totalement anodines parce qu'il y a cette usure, une forme d'usure au niveau du couple. C'est comme si le couple était acquis alors qu'il n'est jamais acquis. On peut tout perdre du jour au lendemain.
Attention, évidemment. Magali, dans un instant, est avec nous sur Sud Radio et vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Pascal Neveu, psychanalyste, psychothérapeute, nous évoquons l'infidélité. Nous avons Magali qui est avec nous. Merci Magali, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Magali.
Bonjour Pascal, bonjour Brigitte.
Alors, vous avez pratiqué pourtant le libertinage avec votre ex-mari, hein, c'est bien
oui.
ça. Néanmoins, il a été infidèle. Alors, c'est quoi l'infidélité quand on est libertin ?
Alors, bonne question. En fait, il se trouvait que donc on a commencé le libertinage au bout de 20 ans de vie commune.
Oui, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Oui.
Voilà. Et puis, en fait, ça l'a très vite désintéressé. Donc, il m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas toute seule ? Donc, moi, je suis allée rencontrer toute seule. Donc, pour moi, c'était un jeu. Et quand il a commencé à me parler de sa collègue de travail, je voyais bien qu'il y avait un petit rapprochement. Je voyais ça comme un jeu aussi, de son côté.
Oui.
Mais en fait, il y a un matin où il est rentré, il m'a dit, ben voilà, j'ai passé la nuit avec elle. Et voilà, comme on a toujours beaucoup parlé, il m'a raconté comment ça se passait. Je voyais bien qu'il tombait amoureux par contre. Parce que de mon côté, moi, je n'étais pas amoureuse. Moi, c'était des expériences.
Lui, c'était la première fois qu'il découchait chez
oui.
vous ? Ah oui ?
Oui. Oui.
Mais ce qui est un peu triste, c'est qu'on a l'impression qu'il vous a un peu manipulé, non ?
Je sais pas, ou peut-être que moi, peut-être je culpabilisais un peu sans m'en rendre compte du fait de sortir seule, alors que c'est lui qui m'avait autorisé. Et je me disais, ben, s'il peut s'amuser de son côté, ma foi.
Qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans le libertinage ?
Il avait des soucis.
D'érection ?
Ouais.
On l'a dit en même temps.
Bon, parce que voilà. c'est évident. Hein.
Voilà. Donc du coup, je pense qu'il était un peu frustré, donc forcément...
Ouais.
Eh oui, les femmes ont un avantage sur les hommes. Non
voilà, non, donc il a laissé tomber. Et c'est vrai que, voilà, après j'ai appelé par la suite, oui, qu'il la voyait. Puis que je ne savais pas qu'il avait laissé des indices, mais je ne les voyais pas.
Mmh.
C'est une amie qui m'a dit plus tard.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors ?
Ensuite, ben, du coup, il m'a dit que finalement, au bout de quelques semaines, qu'il ne m'aimait plus, qu'on devait se séparer. Donc je lui ai dit d'annoncer ça aux enfants.
Ouais.
Mais du coup, le fait des enfants, cela fait-il ? Mais non, on va essayer quand même de continuer. On ne va pas mettre 20 ans à la poubelle. Mais en fait, la fille avec qui il était intéressé, elle n'était pas amoureuse. Donc je pense que si elle était amoureuse, qu'elle aurait dit, bébé, on part tous les deux, on fait notre histoire, là, il aurait fait. Mais du coup, il a préféré rester, essayer de reconstruire, mais il ne reconstruisait rien. C'est moi qui essayais d'accrocher les wagons, mais ça ne marchait pas, parce que je voyais bien qu'il n'était plus là.
Et donc finalement, vous êtes séparés.
Et donc finalement, un an après cette histoire, j'ai rencontré quelqu'un. Donc moi, je devais être dispo dans ma tête, je pense.
Mm-hmm.
Et c'est là que je lui ai dit, au bout d'une semaine, j'ai rencontré quelqu'un, on se sépare.
Mais j'ai quand même l'impression, Magali, que de toute façon, votre couple, après ces 20 ans de vie commune qui ont certainement été très bien, hein, il était quand même fini sur le plan sexuel, enfin en tout cas.
Oui, je pense, hein, oui, ça, déjà.
Parce que on a l'impression, vous avez besoin d'aller en club pour avoir de la sexualité plus épanouissante. Lui,
il s'est forcé finalement à y aller, je pense.
Pardon ?
Parce que il s'est forcé à y aller, d'après vous, ou pas ?
Mais je ne sais pas, non, je pense qu'au début, il voulait découvrir aussi.
Ouais. D'accord.
Et puis après, comme il voyait que ça ne fonctionnait pas, oui, peut-être que...
Oui, je crois que c'est vraiment important de mettre en garde ceux qui nous écoutent. Le libertinage, c'est pas la solution pour sauver le couple qui commence à s'éteindre.
Ah non,
sur le...
Ah non, on voyait ça comme un jeu, ouais, mais c'est vrai que du coup, ça...
Parce que soit c'est un jeu, soit ça peut devenir un challenge également, surtout
oui.
pour l'homme.
Oui.
De se dire, je vois d'autres hommes, alors on se compare bien évidemment, sur tous les plans, hein,
oui.
en termes d'âge, en termes de taille de sexe également, en termes de capacité érectile, et à un moment donné, effectivement, ça peut poser souci. Et c'est sans doute ce qui s'est passé chez lui.
Oui, c'est ça, et moi j'ai découvert. Ouais.
Il a voulu le vivre finalement avec cette autre femme. Elle était plus jeune, hein, d'après ce que vous me dites également. Alors, ensuite, il peut y avoir une crise, à mon avis, de la cinquantaine.
Oh, bah, je sais pas plus, hein, oui, je pense qu'elle doit avoir 52 mois, mais pas plus.
Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord.
Non, mais ce qui s'est surtout passé, à mon avis, puisque j'ai cru comprendre qu'elle était intéressée, comme toute femme intéressée, elle lui a fait le grand jeu. Elle l'a admirée, elle l'a portée au nu, et lui, bah,
il s'est fait avoir, comme tous les hommes.
Exactement.
On est bêta de temps en temps, nous.
Moi, je lui ai parlé à cette fille que je la connaissais. Je lui ai dit un peu qu'il était marié, qu'il avait une famille, que ce serait bien que... Elle m'a dit, mais je fais ce que je veux, je m'amuse un peu avec lui, je m'amuserai avec quelqu'un d'autre une autre fois.
C'est violent, ça, non ?
Ouais.
Mais vous avez l'air, Magali, en tout cas, d'avoir pris les choses assez simplement, enfin...
Bah, ça n'a pas été facile au début, parce que quand même, moi, je comptais finir ma vie avec lui. Après, c'est vrai qu'avec le libertinage, j'ai découvert le désir chez les autres, chose qu'il n'y avait plus, justement, dans notre couple. Et donc du coup, ça m'a aidé aussi avoir la confiance en moi et à retrouver.
Et ça se passe bien maintenant entre vous ? Enfin, vous continuez à échanger avec les enfants également ?
Ah oui, oui, oui.
D'accord. Vous êtes restés amis, hein, visiblement.
En fait, ça s'est toujours bien passé.
Ok.
Mais bon, très bien. C'est fini.
Mais vous avez dit un mot important, on faisait l'émission sur le désir vendredi dernier, et je crois que dans un couple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ne pas laisser s'éteindre le désir. Parce qu'une fois que le désir est éteint, c'est très très compliqué de le rallumer.
C'est ça.
Et quand on ne se sent plus désiré, c'est visiblement ce que vous avez dit, hein, puisque vous, vous avez revécu grâce au désir en club avec d'autres hommes. Quand on n'est plus désiré, quelque part, on n'admire plus l'homme avec qui on est. Et si on ne l'admire plus, lui, il se sent aussi... diminuer, enfin bref.
La flamme s'éteint, il n'y a plus d'étincelle, même dans le regard qu'on porte à l'autre.
Oui, complètement. C'est vrai que là, actuellement, mon compagnon, je sens son désir, au bout de 5 ans, il est toujours là, je le vois, et il me le montre aussi, donc ça, c'est génial, quoi.
Vous allez vous remarier ou pas ?
Alors, moi, j'aimerais bien, mais lui, non.
Je pose toujours les questions.
Il ne faut pas poser ces questions-là à des femmes, Pascal.
Moi, j'aimerais bien, c'est le côté romantique, mais lui, pour l'instant, pas.
Mais il était divorcé, lui aussi ?
Oui, t'es divorcé.
D'accord.
Écoutez, essayez de faire des fiançailles un peu rituelles, juste histoire de marquer le coup.
Ouais, c'est pas forcément un mariage, mais en tout cas, comme je le dis toujours, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là également, il faut vous protéger également. Si jamais vous n'êtes pas, ne serait-ce que paxé ou ce genre de choses, s'il arrive quoi que ce soit, attention à ce qui se passe.
Ça,
je me permets, hein, pardonnez-moi, mais...
Ah oui, mais moi, j'ai
en plus, un mariage, ça coûte cher, mais un seul papier administratif, un pax... Ça vous coûte que dalle.
Oui, c'est surtout plus facile à rompre
également. Alors, sauf si on fait des contrats, on a la possibilité d'établir des contrats devant des avocats, des notaires. Mais voilà. Mais pour la protection de l'autre, pardonnez-moi d'insister, c'est important.
Oui, complètement.
Vous avez quel âge ?
J'ai 50 ans.
Ça va. Vous êtes toute jeune.
Mais ça, ce que vous disiez par rapport à l'infidélité, au fait que les hommes aiment qu'on découvre, moi j'ai su après qu'il avait justement mis des petits cailloux, on va dire, pour que je découvre, mais j'ai absolument rien vu.
Et c'était quoi les petits cailloux justement ?
Alors, c'est une amie qui m'en a parlé après, parce qu'on avait une amie commune avec qui elle racontait tout.
Ouais.
Et il disait qu'il laissait traîner des reçus d'hôtels ou de trucs comme ça.
Mais vous n'aviez pas envie de voir, c'est tout ?
Sûrement, parce que vraiment, j'ai absolument rien vu.
Quand on n'a pas envie de voir, on ne voit pas. Hein,
il est quand même à l'effort. Hein. Laisser des reçus d'hôtels, etc.
Mais pareil, dans les poches. Mais du coup, je ne fouillais pas les poches. Si je trouvais un papier, je le jetais. Mais c'est vrai
donc, ce n'est pas vous qui faites les machines à laver. Je rebondis sur ce que Brigitte disait tout à l'heure.
C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle ne faisait pas les poches.
Oui.
Mais même
à contrario, du coup, quand j'ai rencontré mon compagnon, c'est vrai que j'étais un peu réticente dans le fait où... Et si jamais lui aussi va me cacher quelque chose.
Vous étiez méfiante alors, justement ? Vous avez surveillé ? Vous l'avez espionné ?
Alors, il m'est arrivé au tout début d'envoyer dans son téléphone.
Il écoute un autre là ?
Non, je ne crois pas. Mais il peut. Mais au début, je sais, je lui ai dit après que j'ai regardé dans son téléphone, j'ai fait qu'une fois, je ne ferai pas deux. Parce que je me suis sentie mal à l'aise et puis que voilà, chacun son jardin secret et soit on fait confiance.
Ouais, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Voilà. Mais en même temps, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, Magali, la confiance, c'est quelque chose de très précieux et quand on a été un petit peu trahi, on a tendance à avoir du mal à refaire confiance. Mais il faut vraiment faire confiance parce que sinon, on a du mal à s'engager, on a du mal à. C'est vraiment, pour moi, c'est un des piliers essentiels du couple. Eh ben merci Magali en tout cas de ce témoignage. Merci à vous.
Et puis bon mariage.
Oui, merci.
On vous envoie des ondes positives. Allez, on fait une petite pause. On retrouve notre sexy news, Flore Chérie. Vous savez si c'est mieux de prendre une douche ou des bains pour bien faire l'amour ? Vous aurez la réponse dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, Pascal Neveu, Flore Chérie va nous dire si c'est mieux de faire des douches ou des bains pour bien faire l'amour. Flore ?
Eh bien, je vais surtout vous parler des douches. D'ailleurs, est-ce que vous en avez pris une avant de venir dans cette émission ? Je me permets.
J'ai pris un bain ce matin.
Vous avez pris un bain ?
Là, je me suis engueulée.
Ah bah non, ça c'est bien une attitude de petit coquin. Je vous retrouve bien là, malheureusement. Mais même si vous êtes tout seul, ce qui compte, c'est l'hygiène. Parce que j'ai appris dans un tout récent sondage que l'hygiène intime des Français que plus on prenait sur l'hygiène intime des Français, que plus on prenait de douche ou de bain, plus on avait une activité sexuelle intense. Si les trois quarts des Français prennent une douche intégrale à peu près tous les jours, font une toilette intégrale, que ce soit en douche ou bain, tous les jours, la statistique tombe à un Français sur deux chez les personnes vierges ou qui n'ont pas fait l'amour depuis plus de 4 mois. À l'inverse, quand on dépasse les 80% de douches quotidiennes chez les personnes qui font au moins 3 fois l'amour par semaine.
C'est quand même pas les mêmes chiffres, hein. Moi, j'ai des chiffres statistiques. C'est un Français sur 10 qui prend une douche ou un bain une fois par semaine et un Français sur 10 deux fois par jour. J'ai pas les mêmes chiffres que vous.
En tout cas, c'est
l'hygiène des Français à l'option catastrophique. Hein.
Elle est mieux qu'avant, elle se bonifie d'année en année. Alors, il y a eu le Covid. En tout cas, c'est un sondage IFOP qui vient de sortir il y a 6 jours et qui est sorti la semaine dernière.
Je vais regarder mes fiches.
Vous pouvez aller regarder ça. Donc, c'est quand même fou de se dire que la baise, c'est une motivation essentielle dans ces rendez-vous avec le pommeau de douche.
Ça me paraît quand même assez normal.
Se doucher avant. Ce qui est bizarre, c'est de ne pas le faire.
Ou après.
Ce qui est bizarre, c'est de négliger sa propre hygiène quotidien si on n'a pas.
Non, mais ça, je suis d'accord que négliger sa propre hygiène, c'est assez catastrophique. Et c'est pas... mais en général, les gens qui se négligent sont souvent des gens qui sont en mauvaise relation avec leur corps, avec eux-mêmes, et qui souvent donc sont pas forcément des hypersexuels.
Ou qui ont des fantasmes sexuels particuliers, entre l'urophilie, la scatophilie et compagnie. Je suis désolé. Hein. Ou ceux qui aiment les odeurs, etc. Moi, j'ai connu des patients, par exemple, une femme qui ne supportait pas de rencontrer un homme qui était trop parfumé. Elle lui demandait d'aller prendre une douche, elle ne supportait pas le parfum.
Je crois que c'est Napoléon aussi qui aimait bien les odeurs.
Oui, ne te lave pas.
J'arrive. Exactement. Donc, il y a un lien étroit entre les gens qui sont actifs sexuellement et les gens qui prennent des douches. Enfin, je ne sais pas si vous avez pris le métro aujourd'hui. On est le 5 septembre, c'est la rentrée. On est collés les uns contre les autres. Il fait 30 degrés dehors.
Non, pas moi, je ne me colle pas.
Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est baiser. Hein. Baiser. Faites-vous un petit 5 à 7 avant de rentrer à la maison en métro. On veut respirer du frais près des strapontins. Après, je comprends que c'est une statistique qui peut être effrayante si vous êtes en couple et que ça fait des années que les ressorts du matelas n'ont pas grincé et que votre compagnon ou que votre compagne se douche encore tous les jours. Statistiquement, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Bon, dans la suite du sondage, on n'apprend pas grand-chose. 25% des hommes ne changent pas de slip tous les jours. Ils changent de côté. Hein, on connaît l'astuce. Les femmes font plus...
Comment ça, ils changent de côté?
Vous savez, ils inversent le sens du slip. Vous avez jamais fait ça?
Non, pas du tout.
Vous
n'avez
jamais
propre.
Été en galère de sous-vêtements
non,
en vacances?
Jamais.
D'accord. Eh bien, on peut retourner son... Enfin bon, certains le font.
Mais pourquoi? Mais il est à l'envers à ce moment-là. Enfin,
oui, les coutures sont à l'envers, mais c'est la partie qui est contre la partie intime qui change de côté.
Et
non, vous n'avez jamais fait ça?
Non.
Oh, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont déjà changé le... et qui ont inversé.
Qui nous appellent 0826-300-300.
Parlez-nous de vos problèmes de slip.
Non, mais alors attendez, parce que les femmes qui viennent d'entendre ça, si elles voient un homme se déshabiller avec les coutures à l'envers, elles vont se dire, celui-là, il manque d'hygiène.
C'est le deuxième jour, c'est le 48 heures.
Et pour les chaussettes, prendre son pied, c'est exactement la même chose ou pas?
Alors, ça ne dit rien sur les chaussettes. Bref, on apprend que les femmes font plus pipi que les hommes après un rapport sexuel.
Ah, j'allais dire sous la douche, d'accord.
Qu'elles sont plus sujettes. Ça, c'est les écolos.
Ça, c'est normal, c'est une question d'anatomie.
On sait en effet qu'elles sont plus sujettes aux infections urinaires et que parfois elles ont besoin de 4 bières pour trouver à leur amant du soir des ressemblances avec Brad Pitt.
Sur le plan.
Non, c'est une blague.
Sur un plan plus pratique, il vaut mieux faire pipi avant le rapport pour éviter justement les cystites et les infections.
C'est vrai. Mais c'est toujours aussi bien de le faire après. Si on ne l'a pas fait avant, on peut toujours...
Et d'ailleurs, on peut faire pipi sous sa douche. Hein.
On peut aussi faire pipi sous la douche, comme ça on est parfait.
On fait tout d'un coup.
On fait tout d'un coup, c'est nickel. Les Français ne seraient pas aussi sales que leur réputation internationale le laisse à penser. Si les trois quarts d'entre eux prennent une douche tous les jours, ce que j'ai dit en début de chronique, seul un Italien sur deux le fait. En même temps, au jeu de l'hygiène intime dans les toilettes, ceux qui gagnent, ils ont des bidets dans chaque cabinet, alors que nous, on est encore à la tartinade au PQ mouillé. Un point partout, balle au centre. Ce sondage donc, sur l'hygiène intime des Français sort chaque année et pointe surtout du doigt que notre hygiène est en lien étroit avec notre sociabilité, c'est ce que vous avez dit. En période de confinement, on conservait plus facilement ses sous-vêtements et les douches étaient plus rares. Alors qu'aujourd'hui, à l'été 2022, nous retrouvons nos statistiques d'hygiène d'avant la pandémie. On sort plus, on se rencontre plus, on baisse plus, donc on se douche plus. Il faut s'aimer pour se doucher ou se doucher pour s'aimer. Pourquoi pas ? Après tout, c'est un cercle vertueux. S'obliger à de la propreté dans nos sexualités, c'est le meilleur moyen de préserver une bonne santé.
Et vous n'avez pas raconté les histoires de pompiers qui interviennent et qui envoient aux urgences des couples qui font l'amour dans leur bain. Et ça fait ventouse.
C'est qu'est-ce que vous racontez ?
Ah non, c'est totalement vrai.
Mais comment ? Attendez, expliquez-moi, je ne comprends pas là.
Vous avez, en fonction de l'anatomie, etc., de la contraction, vous avez à un moment donné des couples qu'on récupère. Alors s'ils ont un téléphone à proximité, c'est pratique.
C'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les pompiers.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les pompiers. Et ils m'ont raconté plein d'anecdotes.
Mais ça, j'imagine. Mais je ne comprends pas parce qu'ils sont trop gros. Ils sont,
C'est ça. Généralement, c'est plutôt des hommes qui sont bien membrés, etc. Et puis, il y a un effet que je ne connais absolument pas, je ne peux pas vous le décrire, mais donc ils terminent aux urgences. Ce qui les fait beaucoup rire parce que sur les.
Enfin, ça fait rire
sur
les
brancards. Oui, ils ne prennent pas de photos non plus. Sur les brancards, ils sont tous les deux sous un drap. Et c'est assez humiliant d'ailleurs pour ces pauvres patients. Bon, ça arrive quelquefois. Il y a d'autres pratiques dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ils finissent aux urgences.
Je me permets juste une question. Sur les deux orifices.
Oui.
D'accord.
Mais principalement. Avec principalement l'anal. Principalement, non, pas l'anal. C'est plutôt le vaginal.
D'accord.
Avec les lèvres, etc. C'est pour ça que ça fait ventouse.
Ah, d'accord.
D'accord. Et donc, il ne peut pas ressortir du vagin ?
Ah non, pas du tout.
Il est coincé ?
Surtout s'il est pris à pic, parce que dans ce cas-là, il ne peut pas demander.
Ah oui.
S'il pouvait demander, dans ce cas-là, ce serait un petit peu plus simple. On fait une piqûre et puis voilà.
D'accord. Bon, et bien écoutez.
Vous aurez appris des choses ce lundi. C'est la rentrée des classes.
J'ai privilégié les douches au bain pour répondre à votre question, pour éviter les faits ventouses.
C'est la même chose. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est l'eau
qui fait ventouse.
Bah oui.
Ouais. Ça colle les lèvres sur le pénis, en fait.
C'est ça.
C'est ça. Hein.
Ensuite, chacun son truc. Tout dépend de la taille de la douche également.
Mais
si vous pouvez y rentrer à deux ou à trois ou à quatre. J'ai pas dit combien rentrer chez vous, mais donc.
J'ai une petite douche.
J'ai pas dit en vous. Ah bon, dommage. Il reste les sex toys.
Bon, ça va. On peut continuer l'émission.
Oui, pardonnez-moi.
Là, tous les deux. Ils sont déchaînés aujourd'hui.
Les
vacances vous ont fait du bien.
Il fait 31 degrés à Paris, on a chaud.
Ils sont déchaînés. Bon, et ben merci en tout cas, Fleur Chérie. Pour les fantasmes, vous pouvez aller sur le site mysuitefantasy.com si vous avez un fantasme de particulier de ventouse ou de je ne sais quoi. Peut-être que ça vous arrivera avec Arthur Vernon. Hein, vous aurez des gens
qui veulent être ventousés. On évitera de finir aux urgences. Vous n'êtes pas très heureux comme fan de fantasmes.
Et vous vendez des sous-vêtements sur le site ?
Oui, et puis surtout dans notre bar à fantasmes, on vend des sous-vêtements, culottes. Des petites culottes portées. Brigitte vend d'ailleurs sa petite culotte portée.
Non, je voulais donner, je ne voulais pas vendre.
Non.
Mais c'est eux qui le vendent.
C'est nous qui la vendons.
Ah bon ?
Non, ce n'est pas vous qui la vendez, vous avez raison. Non, elle est toujours, d'ailleurs on ne l'a pas du tout vendue, elle est toujours exposée comme un trophée. On aurait voulu la mettre aux enchères, on ne l'a pas fait. Mais on préfère la garder, on l'a
mis
trop.
Vous pouvez la mettre aux enchères, mais elle a été lavée, je tiens à préciser.
Mais je crois qu'elle est parfumée. Lavé mais parfumé quand même.
Bon, n'est-ce pas ?
C'est la soupline.
Bon, et ben merci Fleur Chérie. Et on va continuer avec Bobby qui va répondre à trois questions intimes. Bonjour Bobby.
Oui, bonjour à vous et à votre invité.
Bonjour Bobby.
Avec Pascal Neveu qui est avec nous, Bobby. Bon, alors, évidemment, première question, je ne vais pas vous demander si ça vous arrive de porter votre slip à l'envers, ce serait trop indiscret, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire l'amour sous la douche ou dans la baignoire ?
Dans les deux cas, oui, ça m'est arrivé, oui.
Dans les deux cas, douche et baignoire. Dans la baignoire, c'est quand même pas très pratique, si.
C'est moins pratique que la douche.
Ça glisse, en plus c'est dangereux.
On peut se péter la
gueule. Une grande baignoire d'angle, donc ça peut adapter. Ouais.
Ouais, mais c'est pas écolo, une grande baignoire.
On va se faire massacrer par les écolos. Hein.
Mais c'est pas les meilleurs souvenirs, honnêtement.
C'est faire pour faire, bah oui. C'est terrible, comme quand on est jeune, on a envie de cocher toutes les cases. Alors bon, faire l'amour dans l'ascenseur, c'est fait. Dans la baignoire, c'est fait. Dans le train, c'est fait.
C'est
un peu ça, Bobby. Dans la cave, voilà. Pas, dans le parking, peut-être. Oui.
Ah oui, il y en a beaucoup, ça, dans le parking. Et parking municipal.
Dans le plateau radio, ça va faire.
Vous avez quel âge ?
49 ans.
Ah oui, donc vous avez de l'expérience.
Oui. Alors, quel est l'endroit... Ah bah tiens, deuxième question. Quel est l'endroit le plus insolite où vous ayez fait l'amour ? Puisque visiblement, vous êtes un grand voyageur.
Je ne sais pas, sur mon lit d'hôpital.
Ah bon ? Avec une infirmière ou...
Non, avec mon épouse. Mais à côté de la loge des infirmières. Elles étaient toutes à côté, en pleine nuit. C'est assez marrant.
Vous êtes un coquin, vous.
On essaye, hein. On essaye de s'amuser un petit peu.
Mais ça, c'est un fantasme assez courant. C'est pas la première fois que j'entends ça. Faire l'amour sur son lit d'hôpital, c'est quelque part se redonner de la santé. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Ce que je comprends tout à fait. Parce que finalement, faire l'amour alors qu'on est à l'hôpital, c'est quelque part aller déjà beaucoup mieux. Non ?
Oui, surtout que c'était une situation médicale assez gravissime. Et
qu'est-ce que vous aviez ? Vous avez eu un accident ? Vous étiez dans le plâtre ?
Non, à l'époque j'avais une suspicion de sclérose en plaques foudroyante qui allait m'amener jusqu'à la totalité. Sauf que coup de bol, ça s'est mis que sur la vue.
D'accord, ok.
Voilà.
D'accord, mais donc je comprends.
Et vous savez, Brigitte, et vous aussi, Bobby, il y a un endroit où bon nombre de couples n'osent pas faire l'amour, c'est lorsqu'ils sont chez leurs parents.
Bah oui. Peu de respect quand
très
même
peur.
Parce qu'elle
oui complètement d'accord
ouais. Hein, enfin bon
quand même
bon je vous laisse continuer
et alors dernière question puisqu'on parle d'infidélité aujourd'hui l'infidélité vous pardonnez ou vous quittez
c'était le débat il y a 10 ans avec mon épouse on s'est quitté suite à une infidélité
qui avait été infidèle
madame.
D'accord.
Et vous n'avez pas supporté. C'était trop difficile.
C'est pas ça, non. C'est le fait qu'elle s'est plaint de son amant qui n'était pas un bon amant à ce moment-là et que c'était bien avec moi. Et là, ça m'avait vraiment fait un électrochoc.
D'accord. Donc, et vous avez préféré mettre fin au couple. D'accord.
Voilà.
Eh bien, vous pouvez poser une question à Pascal Neveu, il vous écoute.
Je suis pas sûr de répondre.
Ouais, bon, on va voir. Je sais pas. Justement, je pensais par rapport au sujet juste avant. Je suis en plein travaux chez moi. Je refais ma salle de bain. Je voulais lui proposer de venir m'aider un petit peu faire ma douche.
Oui, d'accord. Lui proposer réellement un rapport sexuel avec vous.
Vous aviez l'air très pointu dans le domaine, et justement, je lui dis tiens.
Non, je vais venir avec tous les outils indispensables, etc. Vous inquiétez pas.
Et puis avec Flore également, ça pourrait me plaire.
Je crois que vous allez préférer Flore. Hein. Donc, sincèrement.
On pourra en débattre après, ma foi.
Vous êtes dans quel coin de France?
Région Grand Est.
C'est où le Grand Est? C'est Mulhouse,
Grand
Metz
Est, c'est ça, ouais, un peu ouais. Entre les deux. Ouais. Mmh, la moyenne montagne.
Oui, c'est ça, où il y a eu Tchernobyl et compagnie. D'accord, ok.
Voilà, oui. Maintenant, ça s'est arrêté à la frontière.
Je sais. Mais vous n'avez pas l'accent, en tout cas.
Bon. Eh bien, écoutez, Bobby, on va vous laisser.
Merci pour votre proposition.
En contact l'un et l'autre. Et puis,
je vous donne mon 06.
Il n'y a pas de souci.
N'importe quoi.
Et puis vous nous enverrez des photos de.
Non, la vidéo.
De vos ébats sous la douche avec Bobby, Pascal Neveu. Voilà, vous voyez ce que c'est.
Vous demandez ça. C'était l'inverse. Je pensais que c'était moi qui allais le filmer.
Ah, bah ça, vous
arrangez. Ah, oui, d'accord. Hein. Bah écoutez, on va signer un contrat avec mon avocat et puis on voit en fonction.
Ah, tout de suite, il faut l'avocat.
Ah, bah oui.
Et bah qu'il vienne également.
Ah, bah. Vous êtes ouvert d'esprit, hein.
Complètement.
Bon.
Merci à vous.
Eh bien, ça vous apprendra parce qu'elle ne veut faire le fou.
Je vais me calmer.
Voilà. Merci Bobby, en tout cas. Merci de votre humour. On fait une petite pause et puis on va revenir sur un sujet sérieux, l'infidélité avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Pascal Neveu, nous abordons la question de l'infidélité et nous avons Martial qui nous appelle, qui donc a été plusieurs fois infidèle à son épouse. Et c'est bien aussi qu'on ait ce point de vue, hein, Martial, parce que vous avez peut-être des raisons pour l'avoir été infidèle, justement. Bonjour.
Alors bonjour, oui, alors
bonjour, Martial.
Infidèle. Bonjour, bonjour, bonjour Pascal Neveu. Infidèle, oui, alors il y a quand même un petit bémol sur la sémantique, parce que dans l'esprit je le suis, mais foncièrement, hein, mais quand on s'est marié, eh bien on s'est juré fidélité, mais on s'est juré aussi de faire le bien et le plaisir de l'autre. On l'a dit devant Madame le maire. Mmh. Et en fait, une infidélité, ce serait tromper quelqu'un. Mais en fait, ouais. Qui trompe qui? Parce que quand madame ne donne pas
ne respecte pas le contrat,
ouais, est-ce que là, il n'y a pas tromperie sur la marque formelle? C'est horrible, mais est-ce que qui aura trompé qui dans ces cas-là? Est-ce que c'est vraiment une infidélité?
Pardon,
mais vous savez, Martial, moi j'ai toujours préféré le terme de loyauté au terme de fidélité.
Parfait.
Parce que justement, et je crois et je pense que, si vous m'écoutez régulièrement, vous le savez, je crois que les besoins sexuels d'un homme, c'est à prendre en considération. Et quand une femme refuse systématiquement la sexualité à son mari, quelque part, elle le frustre beaucoup plus qu'elle ne l'imagine.
Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que ça fait mal. Quand on aime, j'ai foncièrement aimé, type chevaleresque et tout, fleur au fusil, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis vu, moi, pleurer dans le lit parce que je pouvais pas avoir accès à cette peau qui m'attirait vraiment. Et pour cause. Je suis allé voir une professionnelle en Espagne et elle m'avouait, elle, que 60%, c'était dans un truc routier, 60% de ses clients demandaient un massage. Et ça a été mon cas. J'ai pas voulu de relation, j'ai juste voulu que toucher une peau et qu'on touche la mienne. Et ça m'a suffi amplement. J'ai même pas eu besoin de relation. Donc, c'est pour ça l'infidélité, c'est vraiment très relatif. Hein, et je pense que, voilà, si on va loin dans la sémantique, je pense que les torts, si tant qu'il y en a, seraient plutôt partagés qu'autre chose, quoi. Enfin,
comme à chaque fois. Mais vous voyez, alors, dans fidélité, c'est fidesse, hein, c'est la foi, c'est avoir la foi en l'autre, c'est croire en l'autre également. Mais sauf que ce que vous viviez là, c'est qu'il n'y avait même plus de contact entre vous. C'est-à-dire que même si vous étiez dans le même lit, je ne sais pas quelle était en plus la taille du lit, il n'y a rien de pire dans ces cas-là que de ne pas prendre l'autre dans ses bras, même simplement pour regarder un film, se tenir par la main, se réveiller dans les bras de l'autre, s'embrasser. S'il n'existe plus cela, on n'est plus rien. C'est-à-dire que ça devient cruel et on se détruit au fur et à mesure parce qu'on a l'impression de ne plus exister alors qu'on s'est engagé dans un mariage, dans une union, on ne va pas parler forcément de mariage, il est vrai que les sentences du mariage, que ce soit tant à la mairie, qui veut preuve effectivement, quoi qu'il en soit d'un mariage, mais également à l'église, pour certains ou ailleurs, sont extrêmement fortes. Et quand il faut dire oui, on s'engage. Et quand on ne s'engage pas à tout ce pacte, qui n'est pas un pacte diabolique également, mais devient un pacte diabolique, c'est-à-dire que diabolique, c'est réellement se diviser, se séparer l'un de l'autre, et se séparer également d'une partie de soi-même et de ce qu'on voulait créer avec l'autre, et vivre avec l'autre.
Je vais vous reprendre, en fait, on en arrive à se mentir pour mieux vivre ensemble. Et vous savez de quoi je parle.
Oui, c'est mon livre.
Ça, c'est vous qui l'avez écrit. Ben oui, et donc on en arrive là. Mais je l'ai vécu. Ce que vous avez écrit, je l'ai vécu de l'intérieur. Ouais. Et croyez-moi, c'est extrêmement douloureux. Ce que vous venez de l'évoquer, c'est terrifiant, quoi. Ouais. C'est surtout
mais peut-être Martial, parce que justement, on est dans une société qui soi-disant s'est libérée sexuellement, mais ça reste encore des sujets tabous, alors que ça devrait être un sujet abordable. Et je suis pas sûre qu'on prenne la bonne direction avec beaucoup de féministes qui ont tendance à considérer...
Néo-féministes, moi je dirais.
Oui, si vous voulez, mais que si on n'est pas totalement consentante, on n'est pas machin. Non, je crois que la sexualité fait partie de la relation à deux et on ne peut pas... Elle vous a expliqué les raisons qui font qu'elle ne voulait plus faire l'amour, Martial, ou vous n'avez pas pu en parler?
Justement, non, c'est là où c'est pervers, c'est que on l'a tenté mais mille fois. Je l'ai tenté mille fois. Je suis quelqu'un d'une parfaite patience. Mais bon, quand on a affaire à une pervers narcissique, c'est très compliqué. Parce que la faute est rejetée sur lui. Ah mais tu me fais mal, t'es violent. Et puis pendant l'acte, s'il y en avait, elle pleure. C'est horrible, quoi. Comme moi, je veux faire de mal à personne.
Ah, c'est terrible, ça. Pleurer pendant un rapport sexuel, vous avez l'impression d'être un violeur. Hein.
C'est ça. Et donc, moi, je me retire, puis même je déborde, parce que je suis incapable de faire mal à quelqu'un.
Ouais, voilà.
Et donc, c'est de la perversion, hein. C'est vraiment, c'est manipulateur.
Oui, mais là, à ce moment-là, pourquoi vous êtes resté, Martial? Excusez-moi.
Et parce que j'avais trois filles.
Oui, non, mais attendez.
Vous êtes resté combien de temps avec elle?
Non, 35 ans.
Non, mais vous restez 35 ans avec quelqu'un qui serait vraiment pervers narcissique.
Mais on le voit pas.
Il y a l'emprise.
On le voit pas. Moi, je l'ai pas vu. Puis bon, j'étais beaucoup au boulot, je l'avoue. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir parce que je suis amoureux. J'étais amoureux. C'est comme ça. C'est parfois on a les yeux fermés et puis on voit pas ce qui est juste devant notre nez. On le voit pas. On le verra chez l'autre, mais pas chez nous.
Et puis il y a l'habitude également. C'est-à-dire qu'on est réellement sous une emprise psychologique qui fait que Bah, on a beau vous donner deux paires de baffes, même si vous aviez peut-être. Alors, peut-être que si vous aviez 10 amis ou des membres de votre famille qui vous auraient dit, mais attends, réveille-toi, ou wake up, peut-être, ouais. Voilà, Orangina, il faut se secouer, peut-être que vous auriez réagi. Mais
elle,
c'est
vous
très compliqué.
Elle vous a détruit sur le plan psychique
Non, parce que je suis indestructible.
Oui, mais alors, c'est pas une perverse narcissique.
Donc, non, les baffes, je ne les conseille pas, j'ai fait rugby, mais, mais c'est pour dire que, non, je suis pas indestructible, mais au moins imputrescible. Et donc, je ne me suis jamais laissé faire en tant que yang. C'est-à-dire, j'ai toujours mon yang et ma force avec moi. Je fais 1m85, 100 kilos, enfin voilà, il y a du bonhomme. Et surtout avec un bon esprit. J'aime les gens, j'aime la vie, je vous aime.
Vous avez refait votre vie.
Pardon.
Vous avez refait votre vie.
Oui, je suis avec une vraie, j'ai rencontré une vraie yine, je ne savais pas que ça existait, qui est dans une parfaite ouverture.
Précise que yang et ying, ce sont deux termes qui indiquent le masculin yang et le ying féminin dans le Tao, hein, parce que tout le monde n'a pas ce langage.
Tao et débat, ça c'est comme la vie. Et en fait, oui, j'ai...
on ne peut pas s'empêcher. C'est lundi aujourd'hui. Hein.
C'est ravioli. Et oui, je ne savais pas que ça existait, mais oui, on peut. Le complément à soi existe. Et on s'est rencontrés. On a un petit décalage horaire, parce qu'il y a une petite différence d'âge. Ouais, c'est bon. Magique. Quelqu'un qui pense à vous, avant de penser à lui, ou à elle, qu'importe, c'est magique, quoi.
On a l'impression que vous avez une dimension assez spirituelle dans votre vie.
Alors, oui, aussi. Enfin, vous savez, moi, je suis patron de bar, de restaurant, donc je suis quand même, j'aime bien picoler.
Ah oui, vous côtoyez beaucoup de personnes également.
Beaucoup de monde, mais beaucoup de monde.
Non, il n'a pas la foi, il a son foie un peu malade.
C'est vrai, mais elle ne croit pas si bien dire. Les 100 kilos, ils sont bien là, mais elle ne croit pas si bien dire. Mais oui, je rencontre beaucoup de monde, mais si vous venez chez moi, les gens rentrent et il y a une âme. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais. J'ai pas de culture spirituelle.
D'accord.
Je suis catholique. Parce
non,
que
non, non,
mais... Mais oui, il y a cette
notion-là. Le côté yin-yang, c'est plutôt de la spiritualité que de la religion. Hein.
Je l'ai lu parce que je lis beaucoup.
Oui.
C'est toutes vos rencontres. Toutes vos rencontres ont abreuvé à nouveau, c'est pour rebondir sur le foie. Mais vous ont enrichi dans la rencontre avec l'autre, donc vous les comprenez mieux, vous comprenez davantage. Il y a une différence d'âge entre vous et votre nouvelle compagne, vous disiez tout à l'heure. Il y a quelle différence d'âge?
Il y a 16 ans.
Ouais, bon, alors.
Oui, ça va.
Il y a 10% de la population.
16 ans et demi, me dit-elle, parce que. Ah, 15 et demi. Oh là, 15 et demi, ouais, elle me reprend. Elle me reprend. Mais c'est une infirmière, donc elle peut me soigner. C'est pas mal. c'est le rêve. Et bon, mais ces moments magiques.
Donc je ne poserai pas la question si vous êtes fidèle avec elle, parce que ce serait un petit peu délicat. Si elle est juste à côté, ce serait très délicat.
Alors, non, mais il n'y a pas besoin d'être infidèle. Il n'y en a pas besoin puisque le verre est plein. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai cherché ailleurs, ce serait inutile. Et ça servirait à peu près rien.
Le verre est plein, c'est une parole de barman, hein, ça. Bon,
mais c'est le fait d'être comblé. Non, moi je préfère quand les verres sont vides, ça me permet d'en vendre d'autres. mais non, c'est
commercial en plus.
Être comblé, c'est être plein et en partie de l'autre.
D'accord.
Tout va bien.
Merci Martial en tout cas de votre témoignage. Allez, on va continuer après les infos, bien sûr, avec vos témoignages, surtout si vous êtes dans une situation un peu difficile parce que justement il y a eu infidélité et que vous souffrez. Vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. La petite devinette du jour. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, Pascal Neveu? C'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment et vous saurez pourquoi quand je vous donnerai la réponse.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
L'infidélité, c'est un sujet que nous abordons aujourd'hui avec Pascal Neveu, psychothérapeute. Et on va donner la parole à Philippe dans un instant. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi Dieu a créé l'homme?
Bah, tout simplement parce que la femme est imparfaite.
Non.
Je vais bien rattraper le monde.
Non.
Là, je
non,
vais faire massacrer.
Non, on a créé l'homme parce qu'un vibromasseur ne sait pas bricoler.
Oh.
C'est pour ça que.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une connotation sexuelle que j'ai oubliée. D'accord. Okay.
Toujours. Et Dieu a créé les femmes.
Ça nous rappelle un film.
Parce qu'un lave-vaisselle ne s'use pas.
Oh.
Bah oui, il faut la parité maintenant. Hein. Bah écoutez, moi, je sais pas, je trouve des devinettes qu'on m'envoie comme ça. Voilà.
Heureusement qu'on a l'aspirateur, nous.
vous allez avoir besoin de vos amis pompiers, hein, Pascal Neveu, si vous vous servez de l'aspirateur. Je ne voudrais pas vous donner...
Ça sera un sécateur. Mais...
Ouais, enfin bon, faites comme vous voulez, mais... Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Neveu. Ben, dis donc, on parle d'un sujet qui est quand même... Et je ne sais pas si on a déjà autant eu de joie sur le plateau de Brigitte avec Monsieur Neveu.
Oh, enfin, si.
Il y a déjà eu d'autres. Hein, mais,
quand bon, il est voilà. Là, c'est toujours le bordel. J'arrive pas à
le
tenir.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais.
On laisse. Avec un baillon.
Non, je vais ramener le collier électrique que j'ai pour ma chienne. Je vais lui mettre et je vais lui envoyer une décharge de temps en temps. Pour le
ouais, je pense que vous allez pouvoir en envoyer deux, trois.
Mais c'est un sujet sérieux. Merci beaucoup. Mais je suis peut-être SM. Peut-être que je vais aimer. Mais c'est un sujet effectivement extrêmement sérieux. Vous allez nous ramener sérieux, j'en suis convaincu.
Ah ouais, oui. Je vais quand même laisser de la légèreté parce que, oui, c'est vrai que l'infidélité, c'est un truc qui est. Ouais, moi, je pense que ça fait du mal à tout le monde.
Ouais.
Et voilà. Donc, je vais essayer de relever. Avec un peu plus de.
Ça fait du mal à tout le monde, sauf à l'amant et à la maîtresse, Philippe.
Dans un premier temps. Certainement dans un premier temps. Mais après, quand on est dans une infidélité, on n'est pas que deux.
Ouais.
Et on emmène des familles, on emmène des enfants. Et ça reste quand même pas léger. Et même, je parle pour moi, hein, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Hein. Et voilà, non, ça laisse, même si on peut tomber amoureux.
Non, mais je suis d'accord. Je suis évidemment d'accord avec vous. Ce qui est intéressant quand même, et c'est vraiment c'est presque une question philosophique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'homme, enfin l'être humain plus précisément, pour qu'on comprenne bien ma pensée, l'être humain n'est pas naturellement fidèle. C'est pas dans ses gènes d'être fidèle. C'est pas. Et pourtant, on voit bien que quand il y a des relations autres qu'avec son partenaire principal, eh ben, ça crée quand même toujours de la douleur, de la souffrance. On aspire tous quand même, quoi qu'on en dise, à ce que notre partenaire n'ait pas de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Donc c'est. Alors, on est fidèle quand on est très amoureux. Pendant toute la phase de la passion, en règle générale, on est fidèle. Après, il y a plein de raisons qui font qu'on va peut-être rompre ce contrat de fidélité.
Vous voyez, j'ai un exemple, moi, d'un patient assez jeune, la trentaine, qui, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, préférait le polyamour, parce qu'il ne voulait pas s'engager amoureusement.
Oui.
Il se trouve que là, il est tombé amoureux. Mais que cette personne, depuis 15 jours, ne le rappelle pas, etc. Et il en est d'une grande tristesse. Il découvre réellement que finalement, le polyamour, pour lui, c'était pas son truc. Vous voyez, il y a l'inverse également. Il se passe plein de choses. L'amour est extrêmement compliqué. L'infidélité également. Il y a plein de raisons. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pas terminé mon livre sur le sujet. Parce que la dernière partie du livre, moi, je bloque parce que j'ai pas envie qu'on juge qui que ce soit. Mais qu'on avance et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis, si les gens sont fidèles, c'est
leur
truc.
Il y a un livre d'Esther Perel, je crois, si je ne me trompe pas dans son nom, qui est très très bien sur la question de la fidélité et de l'infidélité, qui est un livre tout à fait remarquable. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que l'amour, au sens charnel du terme, forcément nous donne envie d'exclusivité, quoi.
Puis ça dépend des âges, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'infidélité quand on est jeune, parce qu'on veut expérimenter. Un petit peu plus tard également, lorsqu'on vit ces crises de la quarantaine, de la cinquantaine, parce qu'on n'a pas vécu certaines choses, etc., qu'on veut se rattraper. Enfin, y a plein de raisons. Vous avez été infidèle ?
Ah, moi, j'ai été infidèle à de très nombreuses reprises. J'ai eu une vie mariée avec une femme pendant plus de 20 ans.
Ouais.
Il y a plusieurs infidélités, parce qu'il y a les infidélités. Vous êtes infidèle, mais il y a une vraie légèreté. Vous savez que ça ne viendra pas bouleverser votre vie.
Ouais.
Vous vous croisez, vous vous faites l'amour, vous repartez. C'est un deal entre les deux personnes qui sont lancées de l'infidélité, et puis ça fonctionne comme ça. Et puis ça n'entraîne rien. On peut même rentrer chez soi avec... une vraie légèreté et il n'y a pas de problème. Le couple continue à fonctionner comme si de rien n'était. Et puis, il y a l'infidélité où vous savez que votre vie va basculer. Vous le savez instantanément.
Oui, parce que vous êtes amoureux de la femme avec qui vous avez eu une relation sexuelle, oui.
Et en fait, vous avez très bien cadré les choses. Immédiatement, vous saviez, immédiatement, attention, danger, jusqu'où je peux aller, etc. Ok.
Mais moi, j'ai fait, alors par exemple, voilà, je vais en parler, c'est pas un truc dont je suis fier. Moi, je suis tombé amoureux et nous sommes tombés amoureux de la femme d'un ami.
Ouais.
Et ça, c'est un truc, vous ouvrez la boîte de Pandore. Hein.
Ouais.
Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est un truc où on a été red dingue l'un de l'autre.
Mais moi, vous voyez, Philippe, autant je trouve stupide d'aller faire l'amour avec la femme d'un ami ou le mari d'une amie. Hein. Mais quand on est en effet amoureux, bah, quelque part, ça dépasse le raisonnable, hein, c'est tout.
C'est ça, on a dépassé le raisonnable. Alors j'ai beau me flageller avec ça, dire oh, t'es un salaud, et puis du peur du jugement des autres, hein, parce que bien sûr qu'on a été jugé. Mais on a vécu une histoire magnifique. Et puis je pense qu'on a aussi, on s'est donné la possibilité de quitter les personnes avec qui on était.
Qu'est-ce que ça vous a appris justement, qu'est-ce que ça vous a appris?
Ben moi, ça m'a appris à regarder ma vie déjà, à regarder la vie que j'avais, de comprendre que j'étais pas au bon endroit. On a compris tous les deux qu'on n'était pas au bon endroit. Et on savait tous les deux qu'on dégoupillait la grenade, hein, de toute façon. On l'a dit très vite, hein, on n'a pas vécu de relation cachée. Hein. Ouais. Ça a été très vite annoncé, très vite dit, on n'était pas des gens qui cachent les choses. Donc on l'a dit, donc ça a ouvert la boîte de Pandore. Ça a
ce qui n'était pas forcément très prudent, parce que vous pouviez aussi vous tromper, hein, en étant... Ouais. Parce que quand on est amoureux, on est parfois amoureux aveugle. Hein,
Ah ben ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Là, ce n'était pas le cas, on était amoureux.
Vous êtes ensemble toujours aujourd'hui ?
Non, on n'est plus ensemble. Nous, on était des personnes.
Vous avez vécu combien de temps ?
Deux ans.
Vous voyez, donc c'est bien ce que je dis. Deux ans. Est-ce que c'était bien de tout casser, de faire beaucoup de...
Peut-être pas, après chacun a sa position là-dessus. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour elle aujourd'hui.
Non, mais moi, je ne vous donne pas de leçon de morale, hein, Philippe. Je dis juste juste que deux ans pour vivre une passion, ça peut se vivre deux ans en cachette, quoi. C'est juste ce que je veux dire. Donc, ce n'était peut-être pas utile de voyez, cette franchise que vous pensez peut-être positive. Bah, ce n'est pas certain. Enfin, encore une fois, je ne connais pas votre histoire. Mais je crois que c'est important pour ceux qui écoutent d'entendre que peut-être, même si on croit sur le moment que c'est la femme de sa vie, tant qu'on est dans l'état amoureux, on n'a pas de certitude.
Totalement d'accord avec vous. Je pense même que je vais carrément aller dans votre sens, c'est que je pense que c'est inutile de le dire. Il vaut mieux vivre son truc caché, le vivre, ça se termine. Nous, le truc que ça a fait, c'est que c'était impossible que ça continue dans nos anciennes histoires.
Ouais. C'est ça que ça a amené. Une fois vous aviez tout dit, oui.
Bien sûr, on ne faisait pas de retour en arrière, mais on n'en voulait pas. Alors, de toute façon, c'était comme ça.
Vous voulez dire que cet état amoureux vous a révélé que vous n'étiez pas bien dans votre couple l'un et l'autre?
Ça, c'est évident. C'est évident. En fait, on était nous deux identiques et les deux personnes qu'on a quittées étaient, elles, identiques. On était avec les mêmes personnes. Un homme et une femme.
Oui, mais vous savez, un couple qui dure, c'est souvent deux personnes qui ne sont pas identiques. Hein.
Ah oui, mais ça, je suis
d'accord. C'est la complémentarité.
Je suis d'accord. Ouais, alors après, bon, il y a des limites, hein, quand même. J'entends votre phrase, hein, Brigitte, mais il y a des limites. Pas identiques, oui, mais il faut quand même venir se croiser sur certaines choses. Hein. Oui, je remercie le témoignage de tout à l'heure, je crois que c'était Martial, là, qui a parlé. Et bon, moi, j'étais dans une situation un peu identique de ce qu'il racontait, hein, c'est un désir affectif. Hein. Et les années passent. Et on s'en rend pas forcément compte, et puis on a la tête dans le guidon, on avance comme ça. On croise des femmes qui ne nous mettent pas en danger dans notre vie de couple, et puis un jour, il y en a une qui arrive.
Oui. Je reviens sur.
Peut-être qu'on est lâche, hein, même si, hein, qu'on a besoin de.
Non, on va pas vous juger, Philippe. Non, mais ce qui est important aussi de comprendre, parce que ça, c'est fréquent, le nombre d'hommes qui, dans un premier temps, choisissent une femme qui ne sera pas sexuellement très active. Et ça, c'est important de comprendre, parce que souvent, ça traduit une petite hésitation sur sa virilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment sûr de sa virilité et donc on ne va pas vers une femme qui serait trop sexuelle. Et ça, c'est important parce que ça parle de vous. Ça parle de Martial et ça parle de vous. Et encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut rester avec une femme avec laquelle on n'est pas suffisamment heureux sexuellement. Hein. Mais c'est toujours important de comprendre le choix qu'on a fait à un moment donné.
À nouveau, c'est
100% d'accord avec vous.
Et c'est une question d'âge.
Il est toujours d'accord avec moi, Philippe. Hein, il est super.
Mais
je suis 100% d'accord avec vous là sur le coup. Je ne suis pas tout le temps, mais là, vous avez tout à fait raison.
La virilité à 18 ans, 20 ans, 40 ans, c'est pas la même chose. Hein. Ça ne se tourne pas autour d'un barbecue, hein. Pardonnez-moi.
Bah, bien sûr. On est des bébés. En plus, les gars, moi, j'étais un bébé. Hein. J'ai rencontré ma femme, j'avais 20 ans. J'étais un bébé. J'avais aucune expérience.
Mais oui, on ne sait pas. À 20 ans, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas qui on est, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et on n'est pas à l'apogée de sa sexualité non plus.
Eh bien non, bien sûr que non. Et j'espère que l'apogée arrive tardivement. Mais de toute façon, ça se nourrit. Moi, aujourd'hui, je suis tout à fait épanoui avec la femme avec qui je vis. Et puis, on a une sexualité. On en parle, ce qu'on ne fait pas dans des premières vies. Enfin, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas parler. Je pense que le truc, il est là, c'est de la communication, de pouvoir se dire ce qu'on vit bien, ce qu'on vit mal, les manques et tout ça. Et moi, le problème, c'est que j'ai jamais parlé de rien. Et puis un jour, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et puis je suis parti.
Et vous savez, c'est la majorité des consultations en thérapie de couple, parce que la communication n'existe plus.
Exactement.
Mais elle n'a jamais existé, souvent d'ailleurs.
Oui.
Oui, elle a certainement jamais existé.
Mais encore une fois, communiquer, il faut être deux, généralement.
Et
quand on sent que l'autre ne sait pas communiquer, et si pour peu qu'on ne soit pas non plus un grand communicant,
il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais surtout le récepteur, il faut qu'il comprenne bien le message que vous lui avez adressé. Parce que l'interprétation ou la mésinterprétation peut compliquer considérablement les choses dans un couple.
Et après, j'ai pas de regret de ce que j'ai fait. Ce que je disais quand j'ai commencé mon témoignage, il y a eu quand même, il n'y a pas que les adultes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent au milieu de ça. Ouais. Donc, je suis d'accord avec vous, Brigitte, il ne faut pas forcément dire, je pense que notre erreur, nous, elle a été de dire. On aurait pu vivre notre truc caché, comme plein de gens le font. On arrivait au bout de notre histoire, on voyait ce qu'on faisait dans nos foyers respectifs, mais on n'aurait pas parlé, c'était mieux.
C'est-à-dire que ça a été un peu explosif, me semble-t-il, les déclarations. C'est peut-être ça qui a été un peu douloureux.
Alors qu'on croit qu'on est dans le respect.
Il y a des choses que les enfants ne doivent pas savoir également. Vous avez de plus en plus de couples qui se séparent, les familles recomposées, ça existe, c'est un quart à peu près. On n'est plus dans ce qui se passait dans les années 50-60, où les enfants divorcés étaient, je vais pas dire bannis, mais exclus un tout petit peu de la société. Il y avait un jugement terrible. Alors qu'il y avait autant d'infidélité à l'époque.
C'était quand même plus caché. Il y avait une sorte de...
On était dans du Chabrol à l'époque.
Oui, c'est ça, oui. Est-ce que c'était mieux, peut-être?
Je sais pas.
En tout cas...
La société évolue, c'est à nous d'évoluer avec ça. Mais dans le respect de l'autre, en nous questionnant, ne faisons pas de bêtises. Et comme le disait Goethe, je suis responsable de mes actes, mais à moi d'en mesurer les conséquences.
Absolument. Merci en tout cas,
merci
Philippe,
beaucoup.
De votre témoignage. Merci à vous. On va continuer avec Isabelle dans un instant sur Sud Radio. Et vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826-300-300. A tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons donc la question de l'infidélité. On a vu à quel point c'est très subjectif, et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre.
Ouais.
N'ayons pas d'idées comme ça, trop arrêtées.
Etc. Oui. Et puis tous les témoignages le démontrent très bien. Chacun vit son infidélité ou sa fidélité de manière totalement singulière. Non, c'est bien d'avoir des témoignages d'hommes
et de femmes. Puisque c'est Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte, bonjour Pascal.
Alors, racontez-nous.
Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, je suis sortie cet été avec une personne de mon groupe d'amis. J'ai un vaste groupe d'amis et puis j'ai appris à connaître cette personne au fil des mois et puis on est sortis ensemble au début de l'été. La relation était plutôt légère. Moi, j'envisageais autre chose d'un peu plus sérieux, mais finalement le début d'une relation reste toujours léger. C'était un peu chaotique au début puisqu'il y avait des retours en arrière, des arrêts brutaux et puis voilà, on a fini par sortir ensemble et moi j'ai voulu poser le cadre de suite en disant ok, on part sur une relation, on n'est pas ensemble, c'est le début de la relation, si on doit voir d'autres gens on se protège en fait, tu me respectes, je te respecte, préservatif obligé. Et puis oui, bien sûr, mais non, t'inquiète pas, il y a aucun problème quand tu es avec quelqu'un. Même si c'est léger, je cumule pas les mandats entre guillemets. Et je sors pas avec plusieurs personnes en même temps. J'aimerais pas que tu le fasses, alors je veux pas que je le ferai pas, etc. Et puis vendredi soir, j'ai appris que ça s'était pas passé comme c'était prévu. Et d'autant plus que cette personne-là a enchaîné la personne avec qui il est sorti la semaine dernière et moi derrière, quoi, en fait. Voilà.
D'accord, sans se protéger donc. Parce que vous auriez accepté éventuellement une relation, enfin qu'il ait une relation avec une autre femme, à condition qu'il mette un préservatif, quoi.
Mais complètement, enfin, c'est le début de la relation, on n'est pas mariés, on ne s'est rien promis, on ne sait pas où ça va.
Ça montre, ça montre une ouverture d'esprit, en fait, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous retrouver contaminé par je ne sais quoi, oui.
Voilà, le d'autant plus que c'est ce qui s'est passé, puisque moi j'avais cette semaine des doutes, je suis allée me consulter mon médecin vendredi, et le vendredi soir, je sentais que la relation était complètement distendue, complètement inexistante depuis une semaine, il y avait des choses qui me disaient que ça n'allait pas du tout, et vendredi soir, on s'est retrouvés sur une soirée, et je l'ai poussé au clash parce que j'ai insisté, j'ai pas été très sympa. J'ai pris ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans le fait que j'ai eu un aveu assez brutal et assez inattendu. Mais je reste sous le choc quand même parce que mon intuition était bonne et je l'ai nié. Mon ressenti était bon et je l'ai nié. Je me suis écoutée à aucun moment, je me suis protégée à aucun moment. Et je lui en veux de pas m'avoir protégée non plus et d'être complètement irrespectueux parce que... À la limite, l'infidélité, c'est pas une infidélité parce qu'il n'y avait pas vraiment de relation, on s'était rien dit, on s'était rien promis, voilà. Mais il y a trahison, il y a mensonge, il y a danger parce que qu'est-ce qui me dit qu'il ne l'a pas fait depuis un mois et demi, avec d'autres personnes, on est partis en vacances
Isabelle,
une semaine.
Je comprends votre colère et je compatis tout à fait, mais peut-être que la solution aurait été que vous lui imposiez le préservatif quand vous étiez ensemble. Parce que
c'est exactement ce que je me dis, mais oui, mais je suis d'accord
parce
avec
vous. Vous voyez, parce que vous aviez une intuition, visiblement, vous aviez l'intuition qu'il n'allait pas être d'une grande fidélité et vous étiez prête à l'accepter. Mais à ce moment-là, protégez-vous, vous.
On rappellera jamais le taux explosif de maladies sexuellement transmissibles durant l'été. Hein. Alors, il ne faut pas culpabiliser, bien évidemment.
Je ne culpabilise pas. Cependant, le début de la relation était tellement chaotique que le préservatif était il y aurait pas eu de relation du tout parce qu'il y avait carrément un problème érectile donc je me suis laissée prendre au jeu
c'est une excuse hein, pardonnez-moi les hommes qui vous disent non je vais pas bander parce que je porte une capote, il y a des capotes de différentes tailles etc, mais c'est très souvent, moi je l'entends en consultation, je l'entends depuis des années en consultation, c'est souvent l'argument que l'homme va utiliser. Certes, on peut trouver l'argument que c'est moins agréable, mais c'est un peu facile.
Mais oui, je rappelle que connaissaient, donc ils avaient confiance.
Je rappelle qu'il y a le préservatif féminin qui n'est pas très fun, mais qui au moins justifie qu'on se protège sans qu'il y ait besoin de...
Mais vous avez chopé une IST ou pas?
Oui.
Ah, qu'est-ce que vous avez chopé si c'est pas indiscret?
Une vaginose bactérienne, c'est pas la pire, on est d'accord.
Antibiotique.
Mais en fait, là, on va dire que... En fait, ce qui se passe pour moi, le truc, c'est que c'est quelque... J'ai consulté mon médecin vendredi, il m'a dit que c'était probablement ça, il m'a dit si vous avez des doutes dans le week-end, allez voir votre gynéco, on fera des examens plus approfondis. À la suite des révélations de vendredi, du coup j'ai pas pris mon antibiotique, il est sur la table de ma cuisine et je le regarde tous les jours et je dois attendre mes résultats. Et ça c'est insupportable en fait.
Mais vous passez quand au laboratoire?
Ça y est, ce matin, tout est fait, ça y est, c'est enclenché, j'aurai le résultat dans 48 heures.
Oui,
mais en fait c'est ça qui est le pire en fait. C'est que c'est avéré, c'est que c'est comme ça, et que là je dois subir quelque chose que j'ai pas consenti. Et même si j'ai consenti à faire l'amour avec cette personne-là sans préservatif, j'ai pas consenti que lui trahisse la parole qu'on s'était dit et tout ça en fait.
Comment il réagit justement?
Je l'ai blacklisté. Il a réagi comment?
Vous avez échangé,
Quand on a échangé, ça a été très violent. Donc, comment il a réagi? Il est parti de la soirée et puis il est allé, j'en sais rien ce qu'il a fait après.
D'accord, oui, mais je crois quand même, Isabelle, que dans votre colère, il y a quelque chose de plus profond que simplement l'IST que vous avez attrapé. Je crois quand même quelque part que vous êtes senti trahi. Parce que au fond, vous aviez un peu envie que cette relation s'engage un peu plus, et vous vous êtes rendu compte que vous avez affaire à quelqu'un qui de toute façon n'a pas de parole. Je crois que le mensonge dans l'histoire est peut-être encore plus douloureux que le fait qu'il ait couché avec une autre femme et que vous ayez attrapé une IST.
Vous avez encore confiance en les hommes ou pas?
Après, il m'avait prévenu qu'il avait du mal à s'attacher, que c'était compliqué pour lui d'avoir des relations. Mais, on avait appris à se connaître et j'ai vraiment cru que cette fois-là, ça pouvait être différent. On est parti une semaine en vacances avec ses amis, c'était fabuleux. Enfin, moi, je lui en veux de plein de choses. Je lui en veux de
Oui, mais enfin, je pense que
Isabelle,
on va faire une petite pause et je vais vous reprendre parce que je trouve que derrière votre colère, il y a quand même quelque chose à comprendre qui parle de vous et c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire pour vous aider. On fait une petite pause, on vous retrouve tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Pascal Neveu, nous évoquons l'infidélité et évidemment, dans l'infidélité, quand on en plus, on se retrouve avec un cadeau de notre partenaire pas trop prudent. Hein,
c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un cadeau d'ailleurs.
Oui, enfin, c'est une façon de parler. Non, mais c'est vrai, on n'a pas encore abordé ce sujet. Ouais. Et avec le témoignage d'Isabelle, c'est important de rappeler qu'en effet, on peut découvrir aussi l'infidélité de son partenaire à cause d'une IST. Ouais. Et en général, déjà, ça met de toute façon en colère. Mais Isabelle, votre colère, je crois qu'elle parle de vous, de quelque chose qui a été réveillé par cette histoire.
Oui, certainement. Mais c'est davantage de l'ordre de l'amitié et de la. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Enfin depuis plusieurs années, voilà, je fais attention aux rencontres que je fais. J'apprends à connaître les personnes. Je couche pas avec n'importe qui. Je m'assure vraiment. J'apprends vraiment. Je prends du temps. Et je passe du temps avec les gens que je rencontre pour vraiment apprendre savoir qui ils sont. Et là, en l'occurrence, on fait partie du même groupe d'amis et des amis que j'adore. Enfin voilà, tout le monde disait que c'était quelqu'un de génial, de bien, de respectueux. Et alors qu'au final, c'est faux. Alors qu'au final, c'est faux et que tout le monde aujourd'hui est déçu, tout le monde aujourd'hui culpabilise de ce qui s'est passé. Tout le monde.
Je pense que votre colère, elle est aussi due au fait que tout le monde est au courant. Enfin, c'est comme si tout d'un coup.
Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Alors là, je vous assure qu'au contraire, hein, moi, j'ai qu'une envie, là, c'est de dire à la planète que c'est un vecteur d'IST hein, et que c'est un danger public. Bah, hein, c'est tout, en fait. Hein.
Non, mais voilà, on n'aurait peut-être pas diffusé son portrait robot non plus.
Non plus.
Parce qu'il y en a plein d'autres.
Non, mais quelque part, c'est une mise en danger. Alors oui, je me suis mise en danger sciemment, on est d'accord, parce que j'ai pas utilisé de préservatif. Mais il y avait un contrat, en fait, c'était juste simple.
Vous êtes senti trahi, en fait.
Tu peux aller où tu veux, moi je vais aller où je veux aussi, si j'en ai envie. Ouais. Mais je vais me protéger parce que je te respecte, en fait. C'est juste de cet ordre-là. Pour moi, dans une relation, la base de la relation, c'est le respect. C'est juste ça, en fait, le respect mutuel. Je demande rien d'autre. Le respect mutuel. Et là, en l'occurrence, c'était jamais je ferais ça, quoi, en fait.
Isabelle,
la trahison, elle est de cet ordre-là.
Il vous dit qu'il ne peut pas mettre de préservatif parce que sinon, il a des pannes d'érection. Vous l'autorisez d'aller coucher ailleurs. Et vous savez qu'il ne mettra pas de préservatif.
C'est pas cohérent, mais je suis d'accord. Mais non, parce qu'il m'a assuré qu'il le ferait pas. Mais de notre côté, je savais bien qu'avant moi, il avait eu d'autres personnes et qu'il s'était pas protégé. Oui, mais parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui ne méritait pas.
Vous êtes très en colère. Hein.
Non, je suis pas en colère. Oh, bah, je suis déçue.
Ouais, qu'est-ce que c'est ça, Isabelle?
Je suis déçue. Oui, je suis en colère.
Mais
évidemment,
vous êtes
déçue. Colère.
Non, mais voilà, exactement. Vous venez
c'est
de dire,
normal.
Isabelle,
c'est
vous
normal.
Venez de dire le mot. Vous êtes déçue. Vous avez cru à cette histoire. Vous avez fait confiance.
J'ai cru que c'était différent.
Ouais, et c'est sûr. Un homme qui n'est pas fait pour vous et vous n'étiez.
Non.
Et c'est une histoire qui ne va pas dans le sens de ce que vous aviez envie et c'est ça qui vous met en colère.
Je m'étais attachée à la personne. Avant l'histoire, je sais,
mais on l'entend bien. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans une histoire, on n'a pas du tout les rênes de l'histoire. Et c'est ça qui vous met en colère. Parce que quelque part, vous pensiez avoir le contrôle. Vous pensiez...
Oh non, justement pas. Là. Cette fois-là, j'ai laissé...
Ah si, je crois, un petit peu. En lui donnant une autorisation avec des limites, c'est une manière de prendre le contrôle. Excusez-moi.
Il y a une petite part de contrôle, je suis assez d'accord.
Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous acceptiez de lâcher un peu plus pour la prochaine relation. Lâcher un peu plus, qui veut dire qu'il faudra vous respecter un peu plus. Parce que quand on croit qu'on a le contrôle,
on l'a jamais.
On n'a pas besoin de se respecter. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de vous faire.
Oui, ça y est, j'ai compris ce que vous avez dit. La prochaine fois que j'ai l'intuition, au début, je dis non, en fait. La prochaine fois qu'on me dit non, mais non, je vais avoir des difficultés si j'ai un préservatif, bah non, en fait.
Ah non, mais de toute façon, c'est voilà. Préservatif obligatoire. Pardonnez-moi, là, je chevauche ma casquette. Je suis désolée de le dire. Non, mais faites super gaffe.
Ouais.
Ah oui, non, mais clairement. Mais là, c'est terminé, c'est terminé. Et c'était, c'est, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais dérogé.
Enfin, là, alors, on n'est pas. Il y a une solution si vraiment on n'aime pas le préservatif. Eh bien, on a des relations assez poussées, sans pénétration. Avec des relations, on peut très bien avoir du plaisir et des orgasmes sans forcément qu'il y ait de pénétration. Et ensuite, on fait chacun un test et puis après, voilà. Et ça, c'est une solution si vraiment on a du mal avec le préservatif. Mais je pense qu'en effet, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quand même prendre vraiment des risques.
Vous savez, moi, j'ai connu, mais je veux pas être non plus hyper négatif, etc. Je veux vraiment pas jouer le père la morale. Moi, j'ai connu des vies dévastées hein, de jeunes personnes. Femmes, hommes, trentenaires, etc. Je me rappelle en plus qu'il est un jeune, enfin il est devenu patient par la suite, qui apprend son HIV la veille de Noël, quelques jours après son anniversaire, et le jour même où il apprend qu'il devient associé de son cabinet, etc. La vie dévastée. Il est venu pendant 2 mois, il était en pleine dépression, etc. C'est absolument terrible. Alors bon, ensuite. Il n'était pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, etc. Mais ça peut vous ronger une vie. Il ne faut pas prendre de risques avec ça.
Mais je viens de. J'ai mesuré. En fait, le danger, je ne l'avais pas mesuré jusqu'à aujourd'hui. Non, mais je ne l'avais pas mesuré jusqu'au laboratoire où, oui.
C'est ça.
Où là, oui, c'est HIV obligé et dans 3 mois, retest. Oui, c'est obligé parce que même si c'est quelqu'un que j'avais confiance, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup, non, il n'était pas fiable. Et j'ai voulu croire que c'était autre chose, mais non, en fait, non. C'était juste
et je rappellerai également pour ceux qui, majoritairement des hommes, qui prennent de la PrEP n'immunise absolument pas contre les autres IST. Donc là, la prochaine fois, de toute façon, vos médecins, j'imagine, ça va être toute la batterie entre l'hépatite et compagnie. Il faut passer tous les tests dans 3 mois. On fait tout. Hein.
Bon, en tout cas, c'est bien parce que ça nous a donné l'occasion de rappeler l'important oui. de se protéger. Merci Isabelle.
Allez,
en tout
bon
cas.
Courage et refaites confiance aux hommes surtout.
Merci de
votre témoignage. Mais oui, non, mais alors là, par contre, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est différent. En fait, j'ai fait la part des choses et j'ai séparé des choses.
Bon, parfait. Allez, bon courage à vous.
Merci
Isabelle. Alors, le petit love de conseil du jour, avoir une expérience homosexuelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller jeter un œil de l'autre côté comme
de
ça.
L'autre côté
oui, de l'autre côté de l'autre sexe, si
je
vous
préférez.
Je
vous prends en mot, c'est le moment de le dire.
De l'autre côté, oui, évidemment. Comme ça, vous serez fixé. Alors, on entend de plus en plus de gens qui se disent bi. C'est vrai que c'est quelque chose chez les jeunes, d'ailleurs, de très fréquent maintenant. Les jeunes.
Ils sont même pansexuels.
16-17 ans aiment bien dire qu'ils sont bi. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que les homos aujourd'hui représentent à peu près 10%.
Non, c'est plus que ça. C'est 12% et 20% en région parisienne.
Si vous voulez.
Je suis le roi des chiffres. Moi.
10%, 12%, je vous accorde ça. Et il y aurait 4% d'hétéros qui auraient eu une aventure homosexuelle, mais à mon avis, il y a plus.
Non, il y en a plus.
Je suis assez d'accord. Enfin bon, ça, c'est des chiffres que j'ai. Je suis d'accord. Alors bon, moi, je considère que si on veut tenter une expérience homosexuelle, bon, il y a des sites spécialisés. Il y a aussi des annonces libertines. Et je crois que ce qui est important, c'est de partir du principe qu'on a envie d'être un peu curieux et qu'on est obligé de rien et de pouvoir dire stop à tout moment. Mmh. Et pour ça, il faut prévenir évidemment le partenaire occasionnel, surtout si c'est la première fois que vous essayez une relation homosexuelle, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Hein. Alors c'est vrai que dépuceler quelqu'un de l'autre bord, ça excite les homosexuels, hein, qu'ils soient gays ou lesbiennes. Hein, et en général, ils acceptent ce deal hein, de pouvoir que l'autre puisse dire stop. Et puis ne vous inquiétez pas parce que goûter une fois c'est pas forcément adopter définitivement et peut-être que vous comprendrez mieux la différence entre pratique et orientation ou peut-être que vous allez découvrir votre bisexualité, ce qui augmentera votre potentiel de rencontre hein, parce que si on est bi on a 2 fois plus de possibilités de rencontre, ou alors vous serez peut-être définitivement fixé sur votre hétérosexualité puisque
non, ça se révèle à un moment donné ou pas, vous expérimentez, vous voyez ce qui se passe sexuellement. Voilà, c'est pas forcément, en tout cas chez les hommes, une pratique immédiatement anale. Voilà, il y a la fellation, le fait de se sentir bien dans les bras d'un homme, etc. un patient là, voilà, un petit peu plus de 40 ans, ça vient de lui tomber dessus voilà, au mois de décembre. Et donc, il ne se passe plus rien
oui,
avec,
là,
avec
là,
son épouse.
Oui, là, c'est une véritable orientation qui s'est réveillée.
Voilà, qui se réveille.
Bien sûr.
Donc, il y a ça ensuite, il y en a plein, effectivement, que ça fait fantasmer. C'est quoi la sexualité avec un homme? Et puis, vous avez, vous l'avez très bien souligné, des gays qui aiment bien... Alors, j'aime pas le terme dépucelé, je trouve ça, en plus, à partir d'un certain âge, je vous taquine un peu. Mais effectivement, qui aiment bien ça, dire, ouais, c'est bon, je me suis tapé tant d'hétéros dans ma vie. Bon, c'est une histoire de sexe avec des personnes consentantes.
Voilà, mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment, c'était le propos de ce Love Conseil, le voir comme une expérience nouvelle, qui porte pas à conséquences, qui va pas révéler des choses, voilà.
On n'est pas obligé d'en parler à tous ses amis, à sa famille, ça reste du registre de l'intime.
Voilà, et grâce à Internet aujourd'hui...
Ça facilite les choses.
C'est assez facile, en effet, notamment sur les sites...
Enfin, c'est plus facile, mais c'est pas forcément assez facile, parce que ces personnes-là vont se cacher davantage, ils vont pas montrer forcément leurs photos, et lorsqu'il n'y a pas de photos sur les applications et les sites Internet, ils sont davantage, je vais pas dire rejetés, mais pas acceptés en disant...
Alors, pour les femmes, c'est plus facile, parce que dans les clubs libertins, l'homosexualité féminine est assez courante, donc pour les femmes, c'est assez facile. Pour les hommes hétéros qui auraient envie de tenter l'expérience, moi je conseille tout simplement de payer. Prendre un gay qui est prostitué, c'est assez facile.
Oui, mais ça peut être assez dégradant pour eux. Certains le font. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller dans un bar gay?
Oui, bien sûr. Mais c'est plus facile si on est avec quelqu'un qu'on paye de donner ses limites et de poser ses limites. Bon.
Chacun son truc.
C'est mon love conseil. Après, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et chacun fait bien ce qu'il veut. C'était en tout cas un love conseil un peu difficile pour certains et qui peut peut-être choquer. Mais en tout cas, c'est parfois important aussi de donner des conseils de ce genre. On va faire une petite pause et on retrouve Véronique dans un instant qui va aborder aussi la question de l'infidélité avec nous.
14h-16h, Brigitte Lahaye Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Pascal Neveu et nous continuons avec Véronique qui va évoquer la question de l'infidélité. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. D'ailleurs, j'ai adoré vos mini fous rires et votre bonne humeur. Donc, du début.
On va continuer.
Bah écoutez, si vous l'encouragez, Véronique, je sais ce qu'il faut faire, moi.
Là, vous appuyez sur un bouton, il ne faut pas le faire, surtout.
Il est là, dit qu'il serait sage, même.
Mais il se calme au fur et à mesure de l'émission. Il démarre toujours très très fort. Et
parce que c'est monté en fait, c'est l'effet de la théine immédiatement.
Oui. Alors vous avez, c'est l'intuition qui vous a permis de découvrir l'infidélité de votre mari, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, j'ai vécu 10 ans avec lui et bon, il était commercial. Et au bout de, voilà, de je sais plus, c'est... Au bout de 8 ans, 7 ans, voilà, à peu près, j'ai eu l'intuition, je lui en ai souvent parlé, en étant commercial, il me disait que non, il ne me trompait pas, mais bon, il était souvent absent, et puis surtout, j'avais souvent des mycoses, et en fait, lui aussi en avait, moi je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours des mycoses. Et moi, c'est après le divorce que j'ai compris, en fait. En fait, en 3 semaines, on s'est séparés. Je lui ai dit, j'en ai marre. Autant se séparer, on se voit plus. Enfin, ça fait 3 semaines que t'es partie, t'es pas là le week-end, etc. Il en a profité pour dire oui. Bon, voilà. Donc, au bout de 3 semaines, je suis partie avec un bébé de 18 mois. Et il n'y est toujours. Et puis, mon petit quartier, me voyant le centre commercial, les caissières qui ne me voyaient pas bien avec mon bébé, qui me connaissaient bien et tout, voilà, je leur dis, bon ben voilà, je ne suis pas bien nannie parce que... Et puis, elles se regardaient entre elles et me disaient, bon ben, on va lui dire, dis-lui. Et donc, c'est là que j'ai appris qu'il avait essayé... de draguer des caissières. Ma voisine aussi, ma voisine de palier. Ouais. Quand elle a vu que je partais et tout, elle m'a dit, mais vous faites bien, parce que moi, il m'a plaqué dans l'ascenseur un jour, il a essayé de m'embrasser et tout, et non, c'est pas... Voilà. Ouais. Donc là, j'ai... Voilà. Là,
c'est pas drôle de découvrir qu'on était avec un homme qui essayait de sauter sur tout ce qui bouge, quoi.
Voilà, qui papillonnait apparemment énormément, oui.
C'est quand même hyper dangereux. La voisine, les caissières, tout le monde vous connaît. Ça peut à n'importe quel moment vous êtes rapporté. Il a fallu du temps, malheureusement, pour ça. Mais pourquoi il n'allait pas draguer ailleurs, à la limite?
Et ouais, en plus, il devait draguer ailleurs. Hein, je pense.
Pourquoi il venait, il rentrait pas le week-end, par exemple? Vous me dites, vous parliez de trois semaines.
Le travail.
Le week-end, on est commercial le week-end.
En tant que commercial, il était quelquefois côté Biarritz, côté, il avait un grand secteur, ouais. Et il avait des podiums à monter, des foires, enfin je sais plus exactement, c'est loin maintenant, c'est il y a 25-30 ans,
d'accord.
35, donc c'est très loin. Et voilà, donc moi j'avais un bébé, hein. J'étais à la maison,
ouais,
enfin, j'étais en formation d'ailleurs aussi, donc je ne pouvais pas le suivre le week-end. Enfin, je ne pouvais pas le suivre le week-end.
Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? S'il a expliqué quelque chose.
Donc après, il me l'a avoué effectivement, parce que je lui ai dit qu'on m'a dit que, et oui, il l'a avoué, mais bon, j'ai jamais su du coup exactement ce qui s'est passé. Il m'a juste avoué que, parce que avec sa collègue commerciale, voilà, qu'il a un papier, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ben non, il m'a rien dit de spécial. Hein. Il était
ce
pas
n'était
bien,
que
enfin,
des infidélités ou il y avait une double vie également?
Non, que des infidélités. D'accord. Il n'a pas refait sa vie. Il a été suivi par un psychiatre pendant des années pour une raison de. Il s'est trouvé schizophrène, enfin voilà, et etc. Donc non, il n'a pas refait, il n'a pas reconstruit. Il est toujours aussi quelque part paumé. Il a eu des périodes.
Mais je pense qu'il a mal vécu votre séparation, hein, aussi, parce que c'est peut-être ça aussi qui. Enfin, c'est pas vous qui l'avez rendu schizophrène, mais la séparation a pu déclencher sa schizophrénie. C'est ce qui est pas la même chose. Hein.
Et voilà. Je ne sais pas. je comprends pas tout.
Et comment il s'occupe de... Est-ce qu'il s'occupe de son fils? Est-ce que...
Alors, les 4 premières années, ça a été très, très, très compliqué. D'ailleurs, quand on s'est séparés, bah, il l'apprenait un week-end toutes les 3 semaines parce qu'il n'arrivait pas à s'en occuper. Il ne savait pas s'en occuper. Avec tout l'amour qu'il avait pour elle, mais c'était plutôt du samedi midi ou après-midi après le repas, justement, pour pas avoir géré le repas, et dimanche, soir, des petits week-ends. Et pendant de longues périodes, oui, il a pas pu l'apprendre, oui. Il a repris genre à 17 ans.
Ah oui.
Mais il a toujours gardé le lien. Hein, il a toujours gardé le lien. Ils sont proches, ils sont même plus proches maintenant. Et bon, elle lui en veut beaucoup de plein de choses. Mmh. Elle va voir elle-ci un psy par rapport à.
Mais je crois que ce qui est important à comprendre dans votre histoire, Véronique, c'est qu'il est, c'est quelqu'un de fragile, quoi. C'est quelqu'un qui a pas la notion des choses, parce que de toute façon, pour aller draguer la voisine de manière aussi, elle aurait même pu porter plainte pour harcèlement.
Tout à fait.
Hein.
Tout à fait.
Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui sait pas se tenir, quoi.
Il a pas de notion de l'autre, en fait, ce qui correspondrait effectivement à son trouble psychiatrique.
Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas, de toute façon. Il avait un grand besoin sexuel, c'est sûr, parce que moi, il m'avait proposé d'échanger, en fait.
Oui.
Bah, c'est aussi un non-respect de l'autre, hein, quelque part, parce que vous, visiblement, c'était pas du tout dans vos fantasmes.
Non, du tout, non. Alors non, quand il m'en parlait, je disais mais non, enfin c'était pas du tout. Hein. Oui, voilà, j'étais pas ouverte à ce moment-là du tout. Hein. Moi, c'était vie de famille, couple. Voilà.
Vous avez refait votre vie?
Oui, tout à fait. J'ai refait ma vie 20 ans avec un autre homme.
D'accord.
Je ne sais pas à nouveau, mais je suis...
Pas pour infidélité?
Pas du tout, non.
D'accord. Bon, donc ça va. Non, mais 20 ans, c'est une vie de couple. Hein, ouais. Je veux dire, il n'y a rien de... Se quitter au bout de 20 ans, il n'y a rien d'anormal non plus. Il ne faut pas... C'est fini les... Enfin non, il y a encore des couples qui restent 50 ans ensemble. Mais je veux dire, quand on arrive à tenir 20 ans, c'est qu'on a vécu une vraie histoire de couple. Tandis que là, ce que vous racontez, c'est dès le début... Enfin, je pense que... Encore une fois, ça revient à ce qu'on dit depuis le début de l'émission. C'est qu'au fond, quand vous choisissez cette homme, Véronique, vous êtes jeune, vous ne voyez pas sa fragilité, vous ne voyez pas son manque de capacité finalement à être dans une vraie relation. Quoi.
J'ai une question un peu rude à vous poser. Quand vous avez appris que les caissières, votre voisine, savaient qu'il vous trompait, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce qu'il y a eu un sentiment de honte
Ah non, la colère. D'accord, la trahison, la colère, l'ignominie. Je suis restée 4 ans toute seule.
Après,
Après parce que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me correspondait. Ouais. Mais je suis allée voir un psy. La colère. J'étais en colère. J'étais très en colère.
D'accord.
Mais contre lui ou contre vous ?
Ah, contre lui, oui. Oui, contre lui.
Parce qu'en fait, vous auriez pu être en colère contre vous, parce que c'était un mauvais choix.
Oui, alors à ce moment-là, je disais, mais j'ai raté ma vie, je ne vais jamais pouvoir, avec un enfant, reconstruire à mon âge. J'avais 30 ans. Et puis si, en fait.
Aussi, bien sûr.
Mais la colère après lui, le manque de respect, je lui ai fait confiance, il m'a tellement menti, je lui demandais, je le sentais, mais j'aurais pu pardonner, on aurait pu en parler, j'aurais pu adapter, j'aurais pu, il faut en discuter, je trouve qu'il faut tout se dire. Mais
vous savez, Véronique, et là, je suis pas du tout, c'est pas du tout pour l'excuser, mais je pense que c'est quelqu'un qui est pas capable de dire la vérité. C'est quelqu'un qui ment parce qu'il se protège de lui-même, de sa fragilité.
Je suis bien d'accord. Je pensais même qu'il était, pervers narcissique, parce qu'il me, quand même, c'est pas qu'il me manipulait. Enfin, je suis pas sûre. Mais c'était.
Vous savez, quand, schizophrène, c'est pas pervers narcissique.
Les
deux ne vont pas ensemble.
Il y a un des mots à la mode, pervers narcissique, on le met à toutes les sauces. Mais vous savez, par exemple, alors je sais pas du tout, je le connais absolument pas, je vais pas poser de diagnostic, mais par exemple, un schizophrène, on le rentre dans la catégorie des psychotiques, ce sont les gens qui savent pas se regarder dans un miroir. Et là, ça en dit long sur le fait que si on ne sait pas se regarder, ça précisément, on ne regarde pas l'autre. Il y a un reflet totalement, mais perturbé, de soi-même et puis de ceux qu'il côtoie.
C'est-à-dire que vous pouvez même pas aujourd'hui communiquer réellement avec lui parce que quelque part il est ailleurs.
on a utilisé le même terme.
On a utilisé le même mot au même moment, donc ça montre bien à quel point
on communique entre nous.
On communique et on peut se regarder. Vous voyez, il parle un autre langage et c'est toute la difficulté quand on est avec quelqu'un qui parle un autre langage. De toute façon, la communication est impossible. Je crois que la seule solution que vous aviez, c'était en effet de le quitter et de protéger votre fille.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Alors elle, il faut peut-être en effet qu'elle comprenne aussi que son père, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait structuré. Il faut peut-être lui expliquer ça. C'est pas de sa faute. Parce que si elle a un peu plus d'indulgence vis-à-vis de son père, je pense qu'elle se portera mieux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est compliqué pour elle, quand même.
Bien sûr, c'est compliqué
pour elle.
Mais c'est mieux de pouvoir excuser son père que d'être en colère contre lui.
Elle a 25 ans, c'est ça ?
25, oui.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc c'est le moment où elle peut peut-être faire la paix avec sa colère.
Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Pardon, je sais pas.
Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre fille ?
Elle est sage-femme, depuis un an.
Ah, elle est sage-femme, comme par hasard.
Comme par hasard.
D'accord.
je suis aussi du milieu.
D'accord, donc c'est une continuité. Merci Véronique,
merci
en
beaucoup.
Tout cas. On va conclure sur ce témoignage. Et merci à vous, Pascal Neveu, à bientôt.
Merci Brigitte.
Et puis tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Alexandre Jardin, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les magiciens. Vous savez qu'on a tous des modèles, des maîtres à penser dans la vie. Et puis, je vous propose que demain, justement, ensemble, vous me racontiez quelles ont été les personnes qui vous ont aidé à vous construire, qui vous ont aidé à grandir. Et on a tous des modèles. Et
il aura plein de choses à raconter.
Il a toujours plein de choses à raconter, Alexandre Jardin. À demain.